podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cet atelier dédié aux créateurs et aux créatrices. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de podcast, bien sûr, mais surtout de la façon dont Spotify se met au service de la création pour anticiper et accompagner les besoins que vous pouvez rencontrer en tant que podcasteur et podcasteuse indépendante. Aujourd'hui, alors moi je suis Laura, je travaille au sein de l'équipe podcast de Spotify France. Mon rôle c'est d'accompagner les créateurs dans la diffusion de leurs podcasts, autant sur Spotify mais aussi sur d'autres plateformes, de répondre à leurs besoins en leur proposant des outils pour créer, lancer, diffuser et installer leurs podcasts dans le temps. Aujourd'hui je suis accompagnée de Virginie Bégeot qui travaille à mes côtés au sein de l'équipe podcast et que je vais laisser se présenter.
Bonjour, et donc moi je suis Virginie et mon rôle c'est de développer l'audience des podcasts plutôt du coup sur Spotify avec une offre variée qu'on détaillera un petit peu plus après.
Alors l'idée de cet atelier c'est de s'interroger ensemble sur les différents types de challenges que peuvent rencontrer les créateurs et les créatrices tout au long de leur parcours et aussi de vous raconter comment Spotify peut accompagner, se solutionner et parfois alléger certaines de ces problématiques, enfin certaines de ces étapes, que ce soit au moment de la création du contenu en lui-même, au moment de sa diffusion, du moment où il va rencontrer son audience, mais aussi tout au long des transformations et des évolutions qu'il va connaître, qui vont vous permettre de continuer à innover. Avant de commencer, de rentrer un peu dans le vif du sujet, pour mieux vous connaître et être sûr de répondre à toutes vos attentes et d'y répondre le mieux possible, est-ce que vous pouvez en quelques secondes nous dire qui ici parmi vous a déjà un podcast ? Peut-être à main levée. Ok, c'est pas mal. Ça évolue d'année en année. Et qui parmi vous a très envie d'en lancer un ? Très bien. Bon, c'est un bon mix des deux. Donc, on espère que vous allez chacun peu importe le moment où vous en êtes, trouver des solutions et des clés pour continuer à avancer. Et on aura bien sûr à la fin de cette session un Q&A qui vous permettra aussi de poser toutes vos questions. Tout ce qu'on va vous raconter, on va essayer de l'illustrer pour le rendre encore plus concret. Et on va accueillir au fur et à mesure un créateur, Aladine, et une créatrice, Héloïse, pour nous raconter la façon dont les solutions ou les initiatives proposées par Spotify ont pu les aider. Alors, si on reprend le sujet un petit peu à sa base, de façon chronologique, si demain vous décidez de lancer un podcast, les questions qui vont peut-être fuser dans votre tête, c'est où, quand, quoi, comment, sans trop savoir par où commencer, justement. Et pour ça, j'aurai une réponse assez simple et efficace qui est Spotify for Podcasters. Alors, Spotify for Podcasters, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme que vous devez connaître pour vous accompagner tout au long de ce processus-là, que vous soyez au tout début des étapes de création, ou même si votre podcast existe déjà, est déjà diffusé, et même si peut-être votre podcast est hébergé sur une autre plateforme. C'est pas du tout incompatible, et dans tous les cas, il y a des outils et des solutions qui peuvent vous accompagner. On connaît tout Spotify comme la plateforme d'écoute, une plateforme qui permet, sur laquelle vous écoutez sûrement votre musique et peut-être aussi vos podcasts. Spotify, c'est aussi un genre de back-office qui est vraiment dédié aux podcasteurs et aux podcasteuses et qui vous permet de piloter l'ensemble de votre contenu, à la fois les aspects plus créatifs, mais aussi les aspects basiques de création d'un podcast. On reprend les premières étapes, donc quand vous allez vouloir lancer un podcast, la première chose à faire, c'est créer l'objet même du podcast, ce qu'on appelle dans le jargon un peu le flux RSS, qui est vraiment le support de tout ça. Sur Spotify for Podcasters, vous allez pouvoir fabriquer ce flux RSS, donc customiser le nom du podcast, la description, la vignette, bien sûr, mais vous allez pouvoir pousser la chose encore plus loin en créant l'épisode, en le fabriquant depuis la plateforme. Vous pouvez, bien sûr, uploader directement un fichier déjà tout fait, déjà finalisé, un fichier audio, mais vous pouvez aussi l'éditer, voire le créer depuis Podcasters. Faut le voir un peu comme une boîte à outils qui vous permet de tout faire en un seul et même endroit, à la fois de vous enregistrer, d'enregistrer différents segments, de les réagencer les uns avec les autres, d'ajouter des transitions, des sons, des musiques même qui sont toutes libres de droits et auxquelles vous avez vraiment accès librement pour piloter, agencer votre contenu. Sur l'écran qui est à droite, qui est vide pour l'instant, vous allez voir que vos différents segments vont se mettre bout à bout et à la fin, en enregistrant, en sauvegardant, vont créer un épisode unifié, complet. Vous avez aussi une bibliothèque dans laquelle vous pouvez stocker plein de fichiers comme un générique, une introduction, enfin des choses que vous réutilisez régulièrement, qui peuvent rester et auxquelles vous réaccédez très facilement. Une fois que cette partie-là, elle est créée, l'étape suivante, ça va être la diffusion. Donc, quand votre podcast est prêt, que votre premier ou vos premiers épisodes sont prêts, vous allez cliquer sur un bouton qui vous permet de distribuer le podcast sur les plateformes d'écoute. Attention, il y a un piège, c'est Spotify for Podcasters, mais c'est pas une plateforme qui vous oblige ou vous contraint de diffuser uniquement sur Spotify. C'est vraiment un support qui vous permet de diffuser partout, et au contraire, si vous voulez toucher le maximum d'audience, c'est vraiment ce qu'on vous encourage aussi à faire. Donc via Podcasters, vous pouvez le diffuser sur Amazon, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Vous avez vraiment le process qui est détaillé pour savoir comment le faire et être sûr que votre podcast soit disponible partout auprès du plus grand monde. L'étape d'après, une fois que le podcast est diffusé et peut-être même écouté, vous allez probablement chercher à comprendre comment les gens écoutent les différentes performances de vos épisodes, ceux qui marchent, ceux qui marchent moins, etc. Et c'est aussi des données que vous allez retrouver sur Spotify for Podcasters. Il y a toute une palette de data qui vous permettent de comprendre comment les gens écoutent, comment ils se comportent, à la fois des données assez basiques comme le nombre d'écoutes lancées, le nombre d'écoutes à plus d'une minute, donc vraiment les gens qui convertissent et qui poussent l'écoute un peu plus loin, le nombre d'auditeurs uniques, le nombre d'abonnés à votre podcast, la composition aussi de votre audience, qui sont des données assez utiles pour comprendre qui est le paysage de votre audience en termes de genre, mais aussi en termes de tranche d'âge, et les pays dans lesquels il est écouté. Il y a une donnée qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais qui est aussi hyper intéressante, qui est le taux de complétion. Ça veut dire que par épisode, vous pouvez vraiment suivre la courbe d'écoute, comprendre à quel moment les gens écoutent, à quel moment ils décrochent peut-être, est-ce qu'il y a des passages qui sont plus ou moins skippés, et ça vous permet aussi d'améliorer, de continuer à ajuster votre format et la construction de vos épisodes sur la suite. Il y a une toute nouvelle donnée qui vient vraiment d'être lancée cette semaine sur Spotify for Podcasters, que vous voyez ici à l'écran, qui est le nombre d'impressions. On nous demande souvent, on a souvent pas mal de questions de créateurs qui sont comment savoir où est poussé mon podcast sur l'application, savoir où est-ce que les gens peuvent le retrouver. Donc c'est vraiment cette donnée-là qui va répondre à cette question. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où un auditeur va voir votre podcast ou votre podcast va lui être recommandé, que ce soit à travers la page d'accueil, donc avec des recommandations algorithmiques, mais aussi dans sa bibliothèque s'il a sauvegardé votre podcast, ou dans sa barre de recherche s'il le recherche proactivement. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir traquer, mesurer dans le temps, et aussi traquer en termes de sources pour comprendre où est-ce que le podcast est le plus recommandé. Je précise, je ne l'ai pas fait jusque-là, mais que tous ces outils-là et tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui est gratuit. C'est un peu la chose que j'oublie de rappeler trop souvent, parce que ça nous paraît évident à nous, mais il n'y a aucune de ces fonctionnalités qui est en accès payant. Et ces datas-là, elles sont aussi accessibles si vous êtes hébergé en dehors de Spotify for Podcasters. Sur des services tiers, vous pouvez ajouter votre flux RSS a posteriori et retrouver l'ensemble de ces données et les traquer dans le temps aussi. Au-delà de ces fonctionnalités qu'on peut presque qualifier d'un petit peu basiques, ce que Spotify développe beaucoup, c'est l'innovation, des fonctionnalités qui vont vous permettre de pousser le processus créatif encore plus loin, mais aussi de proposer une expérience d'écoute à vos auditeurs qui soit encore plus soignée, encore plus innovante, qui leur permette vraiment de vous retrouver dans un écrin d'écoute, un petit cocon dans lequel ils sont contents de vous retrouver à travers chaque épisode, chaque mois ou chaque semaine. Et c'est ces fonctionnalités-là qui vont faire la différence, qui, elles, sont disponibles uniquement sur Spotify, puisque c'est notre environnement, donc c'est là où on a la main pour vous proposer ces fonctionnalités innovantes. Mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez actionner ou non via Spotify for Podcasters. Je vais pas pouvoir toutes les montrer, parce qu'il y en a plein, mais vous pouvez de toute façon tout retrouver sur le site. Et là, je vais vous en montrer quatre qui sont à nos yeux clés, qui sont aussi assez récentes, qui sont intéressantes à comprendre et qui peuvent vous être utiles. La première, c'est la vidéo. La vidéo, c'est un outil qu'on a lancé l'année dernière, à peu près. Alors, spoiler, on n'a pas pour ambition de devenir le YouTube de demain et de devenir la plateforme vidéo. Le constat qu'on se fait, c'est plutôt qu'aujourd'hui, la consommation entre la vidéo et l'audio, il est souvent assez perméable. On a tous lancé une vidéo sur YouTube en ne regardant que les quelques premières secondes, puis en écoutant simplement, en faisant autre chose à côté chez soi. Et à l'inverse, on a tous peut-être écouté un podcast sur Spotify en audio, mais qui en fait à la base existe sous une forme vidéo. Je pense à des contenus comme Popcorn, qui sont des vidéos Twitch, ou Hugo Décrypte, qui existe sur YouTube. Bref, des choses que vous allez écouter. Et parfois, il y a peut-être un moment ou un passage que vous allez vouloir voir en vidéo parce que il se passe quelque chose, il y a une émotion, il y a une discussion, un rire, etc. Et le côté un peu pénible, c'est de se dire, si je veux voir, il faut que je retrouve la vidéo sur YouTube ou autre. Là, l'idée, c'est de pouvoir accéder à tout ça en un seul et même endroit et que l'auditeur soit vraiment libre dans son expérience d'écoute, de regarder ou juste écouter en minimisant, redéployant la vidéo autant de fois qu'il le souhaite, en fonction du passage en question, en fonction de l'activité dans laquelle il est. Est-ce qu'il est en mobilité, passif, en train d'écouter, ou est-ce qu'il a du temps pour regarder? C'est vraiment lui qui est maître de ça. Et en prime, la vidéo, c'est aussi un moyen d'aller toucher des audiences incrémentales. On sait que sur Spotify, il y a des audiences qui sont souvent plus jeunes, qui consomment pas encore beaucoup de podcasts, qui n'ont pas forcément une grande connaissance de ce format-là, mais qui, à l'inverse, consomment de la vidéo partout ailleurs. Et du coup, la vidéo en podcast, c'est peut-être une façon aussi d'aller les chercher, de les attirer vers votre contenu à travers un peu l'appât de la vidéo qui va leur permettre de s'attacher au contenu, d'être engagé via le côté plus visuel. La deuxième fonctionnalité dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'interactivité. Enfin, les outils en question, c'est les questions et les sondages que vous pouvez aussi créer autour de vos épisodes. Alors, l'interactivité dans le sujet du podcast, c'est une thématique un peu clé parce que quand on crée un podcast, on est souvent un peu tout seul en train de parler dans son micro. On peut avoir l'impression que c'est un peu une conversation à sens unique où on n'a pas forcément de retour des gens, de contact direct avec notre audience. Et c'est souvent même parfois la cause de l'arrêt d'un podcast. On n'a plus forcément en tête ce qui plaît, ce qui plaît pas. On n'a plus forcément d'inspiration pour nourrir les prochains épisodes. Et ça vient beaucoup de cette absence de contact avec les gens. L'idée de ces outils, c'est de rétablir ce contact-là au sein même de l'environnement d'écoute. Donc sur Spotify, de pouvoir, dans un épisode, leur poser une question, les appeler à interagir, que ce soit via un sondage. Donc vous pouvez poser une question fermée avec différentes propositions de réponses, comme vous voyez sur la gauche là à l'écran. Ça peut être aussi une question ouverte et les gens répondent en tapant la réponse directement depuis leur application. Ça vous permet très simplement de leur donner aussi l'impression de participer, de dire ce qu'ils aiment moins dans votre podcast, de vous donner des idées de thématiques ou d'invités pour les prochains épisodes. De cette façon-là, eux, ça les engage, ça leur donne l'impression qu'ils sont un peu avec vous dans la création des épisodes. Et vous, ça vous donne aussi de l'imaginaire, enfin de l'inspiration pour les épisodes suivants, pour savoir ce qui plaît et ce qui plaît moins. Faut garder en tête que ces questions-là, enfin les réponses que vous allez avoir, elles sont toutes privées dans votre espace Spotify for Podcasters, donc vous retrouvez toutes les réponses des gens. Elles sont privées de base, mais vous pouvez décider d'en publier, d'en épingler certaines sur votre page podcast et de les rendre publiques. Mais du coup, c'est vous qui avez l'accès et c'est pas des choses qui sont publiques par défaut. De manière générale, c'est aussi souvent des commentaires qui sont très positifs, assez constructifs. Des retours que j'ai des créateurs qui utilisent ces outils-là, il y a peu de messages négatifs parce que Spotify, c'est pas vraiment un réseau social, donc c'est pas un endroit où vont se retrouver les haters pour critiquer et vous dire ce qu'ils aiment pas. En général, quelqu'un qui vous écoute, s'il est là, c'est que déjà il aime bien votre contenu, qu'il vous aime bien et qu'il va plutôt avoir tendance à vous donner des commentaires constructifs et où il y a aussi beaucoup en général d'amour qui est diffusé via ces commentaires-là. Donc c'est souvent même assez agréable à lire et ça peut être un outil qui vous permet aussi de les engager. La troisième fonctionnalité dont je vous parle, qui est toute récente, puisqu'elle vient d'être ajoutée sur Spotify for Podcasters là cette semaine aussi, que vous allez peut-être retrouver dans l'application, c'est la transcription. La transcription, c'est tout simple. C'est quand on écoute un podcast, quand on lance un épisode, on va retrouver sur la page du lecteur ou depuis le descriptif, on va retrouver le texte du podcast qui se lit automatiquement en direct, en temps réel, en même temps que l'audio. Vous avez rien à faire, vous, de votre côté, c'est vraiment fait automatiquement sur la page de votre podcast. Ça permet bien sûr d'améliorer l'accessibilité pour des publics sourds ou malentendants. Ça permet aussi à des gens qui vous écoutent de naviguer plus simplement dans le contenu, de voir la partie qu'ils ont envie d'écouter plus spécifiquement en faisant défiler le texte de façon plus rapide sans avoir à passer de 15 secondes en 15 secondes. Donc c'est vraiment un outil qui améliore l'accessibilité et qui peut permettre aux gens de vous écouter plus facilement. Vous, en tant que créateur, si vous repérez des erreurs dans le transcript, et je crois que même les auditeurs peuvent le faire, il y a un petit drapeau en haut à droite qui vous permet de les signaler très simplement. Et la dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est la customisation de la page podcast, de votre page podcast. On sait tous que la page podcast, c'est un peu la vitrine d'un podcast. Enfin, c'est votre vitrine à vous. Quelqu'un qui vous a jamais écouté, il va arriver sur cette page, il va pas forcément savoir quoi écouter. Il y a par défaut un peu la bande-annonce qui peut apparaître en haut ou l'épisode le plus récent, mais c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif de votre podcast. Et si vous vouliez recommander un épisode à écouter, c'est peut-être pas forcément le dernier. Donc ça, ça va vous permettre, c'est ce que vous voyez sur la capture à droite, d'ajouter l'épisode qui permet aux gens de commencer de la meilleure façon possible l'écoute de votre podcast. Donc vous pouvez l'épingler, il apparaîtra en haut en recommandation. Et c'est aussi un espace dans lequel vous allez pouvoir, vous, en tant que host, ajouter vos recommandations d'écoute, que ce soit d'autres podcasts que vous aimez bien et que vous voulez recommander à votre audience, pour créer aussi une forme de contact là-dedans, ou alors des podcasts dans lesquels vous pouvez apparaître en tant qu'invité, et même des playlists ou des sélections. Vous pouvez recommander une playlist de podcasts dans laquelle vous faites une sélection thématique des épisodes que vous préférez sur tel ou tel sujet, ou même une playlist de musique. Donc c'est vraiment un peu votre espace qui va vous être beaucoup plus facile à organiser et à personnaliser pour qu'il vous ressemble et que les gens qui arrivent sur votre page puissent savoir quoi écouter en premier. Voilà pour moi. J'espère que ces outils, d'un point de vue créatif, vous ont permis d'avoir une autre vision de ce qui est possible de faire. Et surtout que si vous voulez lancer un podcast demain, c'est beaucoup moins flou et beaucoup plus facile dans votre tête. Le deuxième gros challenge qui se pose après ça, c'est une fois qu'on a créé le contenu, comment on touche son audience, comment on la développe, comment on la rencontre. Et je vais laisser Virginie vous raconter les solutions qu'on peut aussi vous proposer pour faciliter cette action-là.
Super, merci Laura. Donc effectivement, moi mon travail, ça va beaucoup plus être, j'arrive un petit peu quand le podcast est déjà créé, et tout l'enjeu, et c'est un enjeu pour beaucoup d'entre nous, c'est d'amener le bon podcast à la bonne audience, sachant que, je vous apprends rien, mais tous les écosystèmes de podcasts sont différents, c'est très fragmenté. On a quelques solutions, mais ça reste toujours un petit peu compliqué aujourd'hui de communiquer sur un podcast. Donc nous, on fait ce qu'on peut faire à notre échelle pour essayer d'améliorer la découvrabilité du podcast, et ce, avec plusieurs fonctionnalités. Donc ça, c'était une petite slide pour vous expliquer l'enjeu du podcast aujourd'hui, qui est que donc Spotify, c'est une application de musique et une application de podcast. Et on voit très bien, nous, quand on communique sur les réseaux sociaux, quand on recommande des podcasts, que quand on demande à quelqu'un d'écouter un son, une musique qui dure 2 minutes 30, et quand on leur demande de se plonger dans une série de 7 épisodes de 20 minutes, c'est pas du tout la même implication. Et en fait, il y a tout un travail d'éducation, de façon de présenter le podcast qui est hyper important. Et il faut toujours, moi, j'essaie toujours de le rappeler. On a des chiffres toujours d'audience qui sont hyper différents dans le podcast, qui peuvent être un peu décevants si vous, par exemple, venez de la vidéo, parce qu'une vidéo TikTok de 30 secondes, une minute, elle va être consommée beaucoup plus qu'un podcast qui demande une attention profonde, etc. Donc, pour moi, les chiffres d'écoute, c'est jamais les chiffres les plus importants, c'est plus des enjeux d'heure d'écoute, de temps d'écoute, de taux de complétion, comme disait Laura tout à l'heure. Et ce qu'il faut garder en tête pour moi, c'est que vraiment, quand quelqu'un écoute votre podcast, c'est vraiment une écoute qui a demandé une implication un peu monstrueuse par rapport à juste scroller et qu'une vidéo soit apparue devant vos yeux. Donc c'est aussi quelque chose, faut beaucoup démarcher, etc. En général, une fois que c'est fait et que la personne écoute, on a gagné. Mais il y a vraiment un gros travail d'éducation avant, et il y a plusieurs études qui montrent qu'en fait, quand les créateurs de podcasts, ils ont 50% de temps de production et 50% de temps de communication sur les réseaux sociaux, sur les applications, etc., pour faire découvrir le podcast. Donc ça, à terme, on est assez convaincus que ça sera un petit peu plus petit, parce que une fois que les gens seront plus éduqués au podcast, une fois que ce sera plus simple d'en découvrir, etc., et c'est hyper chouette aujourd'hui de voir qu'il y a de plus en plus de newsletters de curation, de médias qui commencent à consacrer des grosses chroniques au podcast, etc. Donc on voit que ça bouge, mais on voit aussi quand même que ça reste une grosse implication à demander aux gens. Du coup, là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu plus, parce qu'on a quand même pas mal cette question, la manière dont on fonctionne chez Spotify, qui est comment est-ce que nous, on en vient à découvrir des podcasts nous-mêmes et à les faire découvrir aux autres. C'est assez simple, en vrai, il n'y a pas de recette magique. Ça passe par beaucoup de veille. Donc nous, on regarde tout le temps ce qui se passe sur Twitter, sur Insta, sur le web en général. Ça passe aussi par la recommandation. Il y a une adresse mail là que je vous conseille de noter. C'est l'adresse à laquelle vous pouvez nous envoyer votre podcast. Ça, bah, on lit tous les messages, évidemment, on écoute les podcasts. C'est très simple, il n'y a pas besoin de faire un gros pitch, c'est juste dire « j'ai lancé un podcast qui parle de ça, voici le lien d'écoute ». Ça, c'est un peu notre canal préféré, parce que du coup, c'est les podcasts qui viennent à nous. Mais on fait attention à pas faire que ça. Et du coup, ce qu'on fait aussi, c'est de regarder un petit peu. On a une page qui s'appelle podcastcharts.com, je crois, qui est du coup le classement des podcasts chez Spotify. Et donc on a le top podcast, top épisode. Ça, on regarde beaucoup aussi, on regarde tous les jours pour voir ce qui remonte un petit peu naturellement. Donc on s'arrête pas au top 5, on va vraiment voir un petit peu. On a des outils en interne aussi qui nous permettent de vérifier un petit peu. Tout d'un coup, on peut voir un taux de viralité sur un podcast, par exemple. On se dit, ah, il se passe un truc, on écoute. Donc c'est un peu un agrégat, il n'y a pas de solution idéale, mais comme dans tous les médias, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de veille. On est ravis quand on reçoit des mails aussi de recommandations. Et ensuite, du coup, on écoute tout ça. Et après, l'idée, c'est d'aller faire un tri. Ça, c'est la partie un peu plus déchirante. Mais nous, ce qu'on regarde, on a une audience qui est assez compliquée, riche chez Spotify. C'est qu'on a aussi des gens qui viennent du monde de la musique. Et du coup, c'est pas forcément la même audience que quand vous avez quelqu'un qui s'est abonné à, par exemple, l'application de podcast d'Apple ou Castbox, ou qui est déjà très, très éduqué au podcast et qui sait qu'il va sur l'app pour découvrir du podcast. Nous, parfois, ce qu'on essaye de faire, et c'est aussi, je pense, si vous étiez là à la table ronde ce matin, c'est aussi, je trouve, la richesse de Spotify, c'est qu'on a l'audience de gens qui écoutent des podcasts, mais on a aussi une autre audience dans laquelle on peut aller un peu taper, entre guillemets. Mais du coup, l'enjeu, c'est d'être très explicite sur ce que c'est qu'un podcast. On a sans cesse, je pense, plus qu'à d'autres endroits, un travail d'éducation là-dessus. Et du coup, quand on choisit un petit peu les podcasts qu'on veut recommander sur l'application, on garde aussi ça pas mal en tête, de se dire « Ok, ça, c'est un podcast qui pourrait intéresser quelqu'un qui n'en a jamais écouté, parce que l'histoire est dingue, parce que, etc. Et du coup, ça, c'est un des critères. On regarde vraiment beaucoup le contenu. Le contenu d'un podcast, pour moi, si le podcast est bien fait, il peut fonctionner chez les gens qui écoutent déjà du podcast, et ça peut aussi séduire d'autres personnes. Donc on essaye vraiment de faire ce travail de conversion aussi de nos auditeurs existants. Un autre truc qu'on regarde, c'est l'assiduité et la régularité. Ça, c'est un peu là où le bas blesse, parce qu'on sait tous et toutes que c'est très compliqué de s'impliquer sur long terme dans le podcast, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Mais côté auditeur, c'est difficile aussi de se lancer dans une série et que tout d'un coup, il n'y a plus rien, ça s'arrête, etc. Donc nous, on fait attention quand on recommande. Ça peut arriver qu'on ait un énorme coup de cœur sur un podcast qui a qu'un épisode, mais par contre, s'il y a eu qu'un épisode et que ça fait 6 mois, en général, on va pas le mettre en avant, parce qu'en fait, derrière, ce qu'on offre aux auditeurs, c'est un petit peu décevant. Donc, c'est un peu ça, les critères, ce qu'on nous demande souvent, ce qui favorise la sélection et la mise en avant de podcasts, c'est un petit peu ça, nos critères, c'est assez, assez simple, en fait. Et ça passe par beaucoup d'écoute. Et ensuite, la partie la plus intéressante, c'est la partie promotion. Donc là, tout l'enjeu, c'est où est-ce qu'on va promouvoir les podcasts qu'on a repérés. On a deux endroits un peu clés. On a un endroit réseaux sociaux. Donc là encore, on parle à une audience qui est à la base, qui a suivi quand même Spotify pour la musique, qui est de plus en plus éduquée au podcast. On a la chance d'avoir une équipe marketing qui fait énormément de travail d'éducation pour expliquer le format, etc. Et qui va essayer d'innover un petit peu dans la curation. Donc s'il y a une grosse actu, je sais pas, les Oscars, ils vont sélectionner des podcasts qui en parlent, etc. Donc ça, c'est super pour essayer de ramener un petit peu les gens dans le podcast. Et on a aussi chaque semaine un petit espace sur Twitter et Instagram où on recommande 5 podcasts de la semaine, qu'ils soient nouveaux ou pas. C'est juste des podcasts qui nous ont un peu tapé dans l'œil, et aussi où on pense qu'ils peuvent rencontrer une audience plus grande. Donc ça, c'est la partie réseaux sociaux. Ça, c'est aussi reflété dans l'application. On a plusieurs espaces de recommandations. Et là, je tiens quand même à le dire, c'est une recommandation qui est à la fois algorithmique et éditoriale, exactement comme dans la musique. Donc vous pouvez de temps en temps avoir un podcast qui vous est recommandé parce que vous êtes un fan de moto, et l'algorithme a remarqué que les fans de moto sont aussi des fans de cheval. Et du coup, potentiellement, va tester de vous pousser un podcast, voir si ça vous intéresse. Puis si ça ne vous intéresse pas, ça sera un autre. Donc il y a tout un travail là-dessus. Qui est assez surprenant, mais du coup qui est assez efficace au bout d'un moment. Et il y a un travail éditorial, donc qui est là vraiment coup de cœur de l'équipe, et toujours en gardant en tête si ça peut parler aux gens, etc. Moi, personnellement, j'ai des hobbies très spécifiques, et je sais très bien que même si j'adore les podcasts sur le sujet, ça ne plaira à personne, donc je ne les recommande pas. L'idée, c'est vraiment de plaire aux gens. Voilà. Et dernier truc sur l'application, on a, je sais pas si vous promenez de temps en temps sur l'onglet podcast, il y a plein de petites catégories différentes. Il y a des catégories, par exemple, il y a une catégorie qui fonctionne beaucoup en ce moment, c'est la catégorie santé mentale. On vient de passer la journée de la santé mentale. Ça, c'est aussi des choses que nous, je vais utiliser un mot horrible, pardon, on curate, on trie. Et du coup, on se dit, bon, bah, ça, c'est un podcast de santé mentale qui est super, on va le mettre là-dedans. Et donc, pareil, là, il ne faut pas hésiter aussi quand vous nous envoyez des mails à nous dire, je pense que ça pourrait être dans cette catégorie, ou etc. Parce que nous, on est toujours preneuses de plus de contenu sur tous ces sujets-là. Et donc, de plus en plus, l'application s'enrichit de toutes ces collections, sous-collections, sous-sous-collections, qui nous permettent, plus il y a de podcasts, de couvrir un paysage de plus en plus riche en termes de sujets. Voilà. L'autre partie importante, qui est très différente pour le coup, c'est la partie en dehors de la plateforme de Spotify. C'est des programmes qu'on est en train de développer de plus en plus. Là, c'est le programme Radar. C'est un programme dont on est très fiers, qui est un programme mondial. Donc là, on vient de lancer la nouvelle promo que je vous présenterai après. Mais c'est un programme qui accompagne à la fois des musiciens, des artistes, des compositeurs, compositrices, et des podcasteurs, podcastrices. C'est un programme, du coup, là, qui a été lancé dans plusieurs pays. Il y a, cette année, 23 podcasteurs et podcastrices qui ont été sélectionnés, dont 5 en France. Donc, on est très contents et contentes d'en faire partie. Et le but de Radar, c'est d'aller chercher des créateurs et créatrices sur lesquels on a à la fois un coup de cœur au niveau du contenu, mais aussi, on est un peu persuadés qu'ils n'ont pas encore complètement trouver leur audience, et c'est vraiment là où le terme de développement d'audience a du sens, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose et qu'il faut qu'on leur donne juste un petit coup de pouce, et qu'en fait c'est un podcast qui va trouver une audience beaucoup plus grande que celle qu'elle a aujourd'hui. Pour ça, je ferai intervenir Héloïse bientôt, qui va nous raconter, mais l'idée c'est vraiment de faire un petit pari en se disant ok, ça va marcher, et on est là pour on est derrière ce podcast pour essayer de l'aider. Je pense d'ailleurs que c'est maintenant que je fais intervenir Héloïse. Du coup, bienvenue. Héloïse, tu as fait partie de notre première promotion de Radar, oui. Qui a été lancée l'an passé. Depuis, tu vas nous raconter un petit peu tes aventures. Et si ça te va, je me dis que tu peux déjà présenter ton podcast et ton parcours.
Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je suis Héloïse, Mamie dans les orties, ça fait 5 ans maintenant. On l'a créé avec Marion en 2018, pendant la marche pour le climat. C'était à l'époque où Bolsonaro venait d'arriver au Brésil et il avait dit cette phrase que j'avais lue dans Le Monde, où il disait « Une de mes premières mesures, ce sera de retirer le droit à l'avortement ». Et on en discutait avec ma pote et je disais « Franchement, il faudrait que les Brésiliens et Brésiliennes aillent parler à leur grand-mère parce qu'ils comprendront que quoi qu'il arrive, elles avorteront ». Enfin, voilà quoi. Et elle me dit, mais tu sais, on devrait faire pareil en France parce qu'un jour, peut-être qu'on va nous le retirer. Et donc, on écoutait beaucoup de podcasts, on allait enregistrer nos grands-mères. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que sur tous les sujets du droit des femmes et de l'histoire du XXe siècle, elles avaient des trucs de ouf à nous raconter. Et je sais pas, vu que c'était il y a longtemps, c'était il y a 5 ans, il n'y avait pas énormément de podcasts et qu'on a essayé de faire les choses bien en termes de qualité, sans être du tout des pros. Mais voilà, le podcast a assez rapidement marché. Il a trouvé une petite audience, mais une audience. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, Laura, on s'est acharné, donc on a continué. Et voilà.
Trop bien. Et du coup, donc, nous, on a repéré ce podcast qu'on a trouvé assez incroyable. Et là, ça coche vraiment toutes les cases de super récit et qui pourrait trouver une plus grosse audience. Et en plus, qui porte un message qui nous paraissait quand même assez important. Donc, on vous a invité à participer au programme Radar. Et l'autre jour, on s'est appelé avec Héloïse pour faire un petit point et pour voir un petit peu ce qu'elle voulait raconter. Et en fait, moi, j'avais des questions en tête, mais tu m'as tellement déroulé un truc magnifique que si tu veux bien me redire un peu ce que tu avais dit, c'est mieux que ce que j'allais poser comme question. Donc,
déjà, tu m'as envoyé un mail. Donc, j'habite à Marseille. J'étais sur la plage des Catalans et je me souviens avoir reçu un mail et je me suis dit, c'est d'un spam. Spotify s'est fait hacker. Ça me disait genre, coucou, t'as été sélectionnée. Non, non, j'étais là, n'importe quoi. Donc, j'ai envoyé à Marion en mode genre, on a reçu un spam. Et elle me dit, réponds quand même. Et je réponds et tu me dis, tu veux qu'on s'appelle? Ah merde, c'est un vrai truc. Voilà, ça, c'est la vraie histoire. Ce que je te disais, c'est que c'est arrivé à un moment où, enfin, le podcast, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont un podcast depuis quelques années, mais c'est quelque chose d'assez solitaire, c'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Souvent on me dit, mais pourquoi qu'un épisode par mois? Parce que c'est, genre un taf de malade, en fait. Voilà, c'est un taf de malade. Y a pas d'argent, voilà, soyons clairs. Donc voilà, c'est un truc d'endurance, c'est un peu un truc d'acharné. Et nous, on n'avait jamais eu de prix, jamais eu de reconnaissance. On a bien sûr eu des articles de presse. On avait une audience, on faisait quand même partie des podcasts, pas famous, mais ça m'arrivait parfois qu'on me dise « Ah, c'est toi, Mamie dans les orties ». Donc de temps en temps, il y a un petit truc qui fait « Ah bon, c'est cool ». Mais on arrivait quand même sur la pente, je passe la fin de la saison 2. On n'avait plus de thunes pour aller rencontrer des mamies en dehors de Marseille et Paris. Et ça nous a, enfin, vraiment, c'est arrivé rien que en termes d'ego, de reconnaissance, de motivation, c'était méga important. Et après, ben, je sais pas si tu veux que je te dise, enfin, Radar, du coup, le truc que ça fait, c'est que ce jour-là, quand vous avez pushé Radar, quand j'ai ouvert mon app Spotify, ça m'a pushé un truc. Écoutez, Mamie dans les orties. Donc, au début, j'ai cru que c'était que moi parce que c'était moi. Et en fait, j'ai reçu plein de screenshots. Et donc, forcément, on a eu une croissance ce jour-là de fou furieux. Mais la croissance est restée et donc ça nous a vraiment fait toucher une autre cible. Enfin, ça nous a fait toucher une autre cible, des gens qui connaissaient pas Mamie dans les orties alors que ça faisait déjà 3 ans. Mais aussi, ça a fait que les gens qui nous connaissaient et qui pensaient qu'on avait arrêté, parce que bah, y avait des moments aussi où on était un peu en down, où on faisait des pauses, genre de 2 mois, en mode alors, il faut qu'on arrête. Puis voilà, de recevoir le podcast, on recueille quand même des vies de gens qui sont parfois un peu durs, donc on reçoit aussi beaucoup. Et donc on faisait des pauses, donc les gens, je pense, disaient ah, ils ont arrêté. Donc voilà, donc on a récupéré nos anciens et on a récupéré d'autres. Et donc c'était cool aussi de recevoir, on a reçu un flot d'amour, de genre ah, mais c'est génial ce que vous faites, c'est incroyable. Alors que ça faisait déjà 3 ans qu'on faisait ça, quoi. Donc voilà, non, c'était vraiment trop bien, quoi.
Et je rebondis juste peut-être en termes de données sur ce que vous voyez à l'écran. Alors, il y a toujours un gros pic au moment où on lance ce type de push et de mise en avant, parce que forcément, il y a un peu tout le monde qui clique dessus. C'est pas en ça qu'on va mesurer l'efficacité, mais plutôt sur le long terme, ouais. En quoi la croissance est durable et en quoi elle reste. Et là, c'est vraiment... Alors, ça paraît retomber, mais au final, on a une très, très belle évolution, une très belle croissance juste un mois après le programme Radar, et ça a duré comme ça pour
ouais, ça s'est jamais mois. Ça s'est jamais arrêté, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on arrive aussi un peu à un palier en termes d'écoute. Je trouve que si t'as pas d'argent dans le podcast pour faire de la médiate, c'est impossible, et le bouche à oreille fonctionne, mais c'est super long. Et je pense qu'il y a un moment où t'as ton truc, quoi, faut que tu fasses quelque chose, enfin voilà, faut que tu innoves. Et nous, on n'avait pas l'énergie pour innover. Et là, vous nous avez permis de... Ah ouais, putain, OK, déjà, on atteint un nouveau truc. Et après, on a repensé à d'autres formats, on a fait d'autres choses. Et ça nous a permis de garder cette croissance. Donc, on a vraiment fait un palier constant.
Et pour nous, c'est là où on s'est dit que c'était réussi, cette OP, parce qu'effectivement, ça a vraiment rencontré l'audience qui n'avait pas forcément été exposée pour plein de raisons, parce que c'est difficile de trouver des podcasts et tout. Et elle ne vous a pas quitté, cette audience. Et effectivement, c'est normal d'avoir un push énorme et ensuite que les gens... clique sur le truc, écoute, et il y en a qui sont pas convaincus, il y en a plein d'autres qui restent, et ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression effectivement que depuis, ça a jamais baissé, et que du coup, vous avez réussi à fidéliser par le contenu, c'est pas juste un push, et ensuite, bon, bah, les gens s'en vont, quoi.
Ouais, donc, ça, c'est chouette. Carrément, et puis c'est vrai qu'en termes de notoriété, quand on disait, ben voilà, on a été spoté par Spotify, je sais pas comment dire, reconnu, enfin... Voilà,
vous avez mis sur le radar.
Mis sur les radars. Pour nous, c'était important, mais pour les autres aussi, il y avait. Voilà, en plus, on était hors Paris, et donc il y avait aussi tout ce truc-là. Tu vois, on n'était pas trop dans les milieux, on vient pas du milieu de l'audiovisuel, on n'était pas des meufs un peu stylées. Donc, non, mais tu vois, il faut dire ce qui est. Et là, d'un coup, ben, t'es un peu une nobody, et t'es sur la home de Spotify, il y a un peu un truc dingue, quoi. Et en vrai, ça fait du bien ça fait du bien, quoi.
Trop bien. Et ben, du coup, c'est une belle transition pour vous présenter la nouvelle promo de Radar. Cette année, il y a 5 créateurs et créatrices. Il y a un petit QR code si vous voulez les découvrir, parce que du coup, l'idée de Radar, c'est aussi de les mettre dans une playlist et d'accompagner ces créateurs et créatrices sur le long terme. Donc, c'est pas pareil, c'est pas un énorme push le jour J de l'annonce de la sortie. C'est vraiment de temps en temps re-recommander les épisodes sur plusieurs réseaux. Les promouvoir sur plusieurs espaces, avoir comme tu as eu toi une espèce de fenêtre qui s'ouvre en disant découvrez tel podcast. Donc voilà notre nouvelle promo. Demain, il y aura Cyrus Storms qui fera un live de son épisode au Paris Podcast Festival si vous voulez découvrir un peu plus le podcast. Tu veux rester ou tu peux bah, comme tu veux. Est-ce que le canapé est confortable? Très bien. Bah, reste parce qu'il y aura peut-être des petites questions, je pense, à la fin. J'enchaîne sur un autre programme. j'enchaîne avant d'enchaîner sur notre programme, j'enchaîne sur Spotify for Podcasters, pardon. Laura en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais au-delà des programmes physiques, on a aussi plein de ressources qui sont disponibles sur Spotify for Podcasters. Il y a des masterclass, il y a des podcasts sur le podcast aussi, il y a beaucoup de choses. C'est toujours intéressant d'aller écouter, il y a pas mal de choses en français aussi. Et du coup, je vous invite à aller voir un petit peu, il y a des études de cas, enfin bref, c'est très riche. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans le podcast qui sont un peu difficiles à répondre, genre est-ce que je poste tout d'un coup, est-ce que je poste tous les lundis à 7h, toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc voilà, les questions à 1000 euros. Donc il y a peut-être des petites réponses là-dedans, et il y a beaucoup d'accompagnement. Voilà, et donc j'enchaîne sur un autre programme qui n'est pas du coup fait que par Spotify. C'est un programme dont on a la chance de faire partie qui s'appelle Sons of New York, qui, comme son nom l'indique, se passe à New York. Donc c'est un programme qui a été lancé par la Villa Albertine. Le but de la Villa Albertine, c'est de faire rayonner les talents français aux États-Unis via plein de dispositifs différents. Donc ils mettent en avant des jeux vidéo, du documentaire, etc. Et pour la première édition qu'ils ont voulu lancer sur le podcast, ils nous ont contactés pour être le partenaire principal. Donc on était super honorés et contentes de faire partie de cette aventure. L'idée de Sons of New York, et je vais ensuite inviter Aladine qui va nous raconter un petit peu plus, mais c'est d'amener des podcasteurs français aux États-Unis, parce que bon, je pense qu'on a quand même le constat que les États-Unis sont parfois un petit peu plus matures sur les podcasts et qu'il y a plein de trucs à apprendre. Je spoil pas la partie d'Aladine, mais c'est aussi des gens qui travaillent très différemment de nous, donc c'est super intéressant d'aller sur place en fait et de s'imprégner de tout ça. Donc, et ce qui est intéressant aussi, je trouve moi, c'est tous les partenaires qui en font partie. Donc il y a Radio France, il y a RFI, il y a la SACD, l'Institut français, l'INA, Paradiso et cette année OCHA. Et donc c'est aussi des gens qui vont à New York avec les créateurs et les créatrices sélectionnés. Donc il y a le temps d'échange à New York sur place avec les Américains, et il y a aussi le temps d'échange avec les partenaires qui est toujours intéressant. On a un diplômé, je ne sais pas, il n'y a quand même pas de diplôme, mais on a en tout cas Aladine qui a fait partie de la première session de Sons of New York. Et qui, depuis, a fait pas mal de chemin dans son parcours France-États-Unis. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de te parler parce que, pareil, à chaud, tu avais plein de trucs à raconter sur ce que ça t'a amené. Donc, bah, pareil, je te laisse te présenter un petit peu et nous raconter. Puis, si besoin, je te poserai d'autres questions.
Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aladine. Alors, je suis journaliste et podcasteur. Et puis aussi journaliste vidéo. On va dire que, pour me présenter et comprendre un peu ma démarche avec Sons of New York, c'est que je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires, qui aime raconter des histoires de gens d'anonymes, des histoires qui peuvent parler un peu à tout le monde ou inspirer. Et du coup, au milieu de la vidéo, il y a aussi un outil qui est l'audio, l'univers sonore, que j'avais commencé à pratiquer en 2019 à peu près. Ça m'a beaucoup plu parce que jusque-là j'avais fait du documentaire, de la vidéo, etc. Et l'idée de faire que de l'audio, c'est intéressant parce que c'est une autre écriture, une autre approche même par rapport à ce qu'on veut décrire comme univers, comment on le décrit, comment on prend les gens et on les emmène dans un univers. Donc voilà, c'est comme ça qu'a démarré cette aventure dans l'univers sonore. Et puis il y a eu en 2020 mes débuts au pied sur terre, sur France Culture, qui m'a encore plus donné envie de raconter ces histoires en son uniquement. Parce que déjà, de une, étant donné que des fois, je veux rencontrer des gens qui sont un peu compliqués, enfin qui ont des histoires un peu compliquées, le fait que ça reste anonyme, c'est que la voix, ça rassure, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, au lieu, là où je m'étais peut-être... je faisais deux histoires en deux mois. Là, je pouvais en faire 5, 6, 7 dans le même temps. Donc, du coup, ça s'est accéléré et j'ai encore plus kiffé l'audio parce que voilà, les gens étaient beaucoup plus OK pour s'exprimer.
Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à postuler à Sons of New York ?
Alors, j'ai postulé à Sons of New York parce que déjà, il y a mon parcours. Donc pas d'école de journalisme, parcours atypique, slasher, on dit un peu comme ça. Et du coup, qui dit parcours atypique, qui dit slasher, dit galère et faire 2, 3, 4, 5 fois plus de taf pour y arriver. Donc, si vous voulez, Sounds of New York s'est inscrit dans cette démarche générale. Pas uniquement en tant que podcasteur, mais en tant que créateur de contenu, en tant que journaliste. Et le truc, c'est quoi ? C'est que je me suis dit, bon, OK, y a le marché français, il y a l'industrie française de création de contenu. C'est bien. Mais pourquoi pas aller voir du côté des États-Unis, qui est, comme vous l'avez dit, le centre du là où vous venez, enfin là où c'est le plus développé le podcast. Pourquoi? Parce que déjà voir comment ils travaillaient, comment ils développaient certains sujets. Il y a beaucoup de points en commun entre la société française et la société américaine sur certains sujets, et je voulais voir moi en fait sur ces sujets là comment ils traitaient comment ils les développaient, comment ils les vendaient tout simplement. Avec tous les acteurs de l'industrie. Donc il y avait cette curiosité de se dire, OK, sur un marché aussi grand que celui-là, comment ça fonctionne. Et deuxièmement, il y avait tout simplement le côté challenge, c'est-à-dire qu'en France, c'est galère, c'est un petit marché. Moi, je galérais pas mal. Je me suis dit, pourquoi on va se mettre des limites ? Autant aller voir si on ne peut pas vendre des choses ou tenter des choses aux États-Unis, tout simplement. Faut pas avoir froid aux yeux. C'est pas parce que c'est les États-Unis on va se limiter et rester dans notre coin. Non, il y a des choses à faire, je pense. On a des choses à apporter en tant que créateur de contenu français. Et puis il y a aussi le côté d'avoir envie de faire rayonner la culture et le savoir-faire français aussi un petit peu. Cocorico. Donc il y a eu ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que peut-être que je...
Ouais, non, j'allais dire, moi,
je suis partie en roue arrière.
Moi, j'étais la première édition et c'était assez marrant, c'est devenu peut-être même une petite blague, c'est qu'à chaque, du coup, c'était que des cours, des masterclass ou des petites interventions de environ une heure avec quand même des grands noms, et ça, c'était quelque chose qui a été très apprécié. Aladdin, à chaque fin de conférence, il était là, Hello, my name is Aladdin, et ensuite, t'allais poser une question et parler, et en fait, je pense que t'as eu une trop bonne démarche là-dedans. Parce que du coup, finalement, les gens, ils se souvenaient de toi, t'es allé discuter ensuite. Et du coup, je voulais te demander, parce que t'as quand même fait, je sais même plus combien de conférences il y avait, mais c'était 3-4 par jour d'une heure à chaque fois. Tu m'avais raconté qu'il y en avait 2-3 qui t'avaient parlé en particulier. Je me disais que si tu pouvais en parler, ça donnait un petit peu un ensemble de... Ça racontait un petit peu ce que t'as entendu là-bas.
En fait, de manière générale, faut être culotté dans ce milieu, dans cette industrie, dans le sens où... encore une fois, c'est pas parce que c'est vrai que c'était vraiment presque la crème de la crème qu'on avait en face de nous. On peut le dire, c'est des gens qui, c'est des gros studios, c'est des créateurs de contenu, des CEO pour certains, des responsables de services. Bref, c'était assez énorme. Et du coup, faut pas y aller si jamais. Donc, vous voulez postuler, faut pas y aller en mode mais on a face à nous des pointures, on va faire les timides. Non, faut y aller, faut poser des questions et faut pas se dire peut-être que mon anglais est approximatif. Moi, j'étais éclaté en anglais, donc je commençais avec My name is Aladdin, hello, what about machin. Donc, il faut y aller, faut profiter. Il y a ces 5 jours, il faut se dire les 5 jours dès que vous ouvrez les yeux et vous prenez au petit déjeuner, faut que ça soit rentable. C'est pas on y va, on prend un billet et puis on fait du tourisme. Il y a trop de choses. Il y a des gens qui sont super intéressants. Et du coup, quand on arrive, il y a New York. Le New York, c'est un truc. Vous arrivez, il y a une énergie. Il y a un truc qui se passe. Donc du coup, vous êtes déjà un peu sous dopamine, sous coke, sous voilà, des trucs qui vous directement ça va là. Donc il y a ça. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, dès qu'il y avait des personnes qui m'intéressaient ou que le sujet m'intéressait, pour être précis, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on passait, premièrement, comment on passait d'un contenu audio, comment on le vendait à des studios audiovisuels, à des chaînes de télé, etc. Donc, je voulais voir ça. Et je voulais voir aussi le fonctionnement en termes juste de business. Voilà. Bon, c'est d'autres chiffres. Là-bas, forcément, ça gagne beaucoup plus, mais ça m'intéressait. Donc, du coup, dès qu'il y avait des sujets liés à ça, je posais des questions. Et puis même après, ça, c'est plus stratégique. C'est que j'allais poser des questions, mais c'était plus pour prendre un mail ou un numéro de téléphone. Donc du coup, j'ai réussi à avoir 2-3 mails et numéros de téléphone et qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui, un an plus tard, à continuer à démarcher parce que là, c'est ce que je fais maintenant. C'est l'après Sounds of New York, c'est de démarcher les gens, d'envoyer des mails, de proposer des choses avec des studios ou avec moi en mon nom propre pour me renseigner. Donc je me suis trompé, j'ai fait des erreurs de pitch. Ça vous apprend aussi à pitcher à la mode américaine, c'est autre chose. Il faut être capable d'intéresser... Si vous arrivez avec un univers français, il faut être capable d'intéresser un Américain qui vit peut-être pas dans le Wisconsin, mais voilà, qui vit à New York ou qui a... Ils sont très auto-centrés quand même, les Américains. Donc, il faut réussir à les appâter avec quelque chose. Donc, voilà, après le Sounds of New York.
Et du coup, dernière question avant de finir. Donc, est-ce que tu as une séance qui t'a intéressé plus que...
Ouais, alors, celle qui m'avait intéressé, c'était justement avec Britta Von Scholler, j'oublie si c'est De Scholler ou Von Scholler. Elle, en fait, elle bosse à Broadway Video, c'est ceux qui produisent The Late Show. Un Late Show, c'est celui, je crois, le plus connu. Et du coup, elle racontait de comment voilà, ils avaient acheté les droits d'un podcast, ils l'avaient produit pour la télévision. Et sa session à elle, avec les 12 intervenants qui étaient présents et dont j'ai oublié le nom, c'était pour moi la meilleure. C'est ce que j'avais cherché. Et c'est quelqu'un que je démarche encore jusqu'à aujourd'hui par rapport à des choses, quoi. Donc, est-ce que ça va payer ? On ne sait pas, mais il faut tenter. Et Adèle Coupoura, voilà, tout simplement.
Très beau. Et du coup, j'en profite pour vous dire que les candidatures pour Sounds of New York ouvrent aujourd'hui. Donc, il y a une petite adresse. Sinon, vous tapez Sounds of New York dans Google et vous trouvez aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler.
Merci à tous les deux déjà d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté tout ça. On a très peu de temps. On va conclure en deux phrases juste pour vous dire que... Enfin, on espère que cette session vous a servi déjà à avoir un peu plus de visibilité sur la façon dont lancer un podcast et être accompagné par Spotify, par les différents outils, les programmes ou les ressources pédagogiques. Il y a deux adresses peut-être à retenir. L'adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer... vos actualités, les nouveaux podcasts, les nouveaux épisodes, les choses un peu fortes, les moments forts de votre podcast que vous voulez nous partager, et l'adresse mail de podcasters, le site de podcasters que vous pouvez aussi flash coder et qui vous permettra d'arriver directement sur la page d'accueil, mais sinon en tapant Spotify for Podcasters dans Google, ça devrait être assez facile. On peut peut-être prendre quelques questions s'il y en a, et sinon n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions là si on ne peut pas y répondre.
Ah pardon, j'ai le micro, désolée. Pardon,
désolée.
Je voulais savoir, parce que moi, c'est la fonctionnalité des questions-réponses, en tout cas des interactions sur Spotify, je l'ai découverte récemment. J'ai un podcast, moi, du coup, qui est diffusé aussi sur Spotify. Mais je voulais savoir, alors, c'est peut-être pas un problème pour vous, enfin, du moins, c'est pas forcément un problème pour vous, mais je me dis, imaginons, j'invite les auditeurs à réagir à mon épisode sur Spotify dans l'onglet dédié. Ça rendra quoi sur les autres plateformes ? Parce que du coup, forcément, les autres plateformes n'ont pas ces fonctionnalités-là. Du coup, je parle à des gens qui travaillent chez Spotify, donc pour vous, c'est peut-être pas un souci, mais comment vous l'abordez en tout cas cette question ?
D'un point de vue développement, c'est sûr que c'est des fonctionnalités qu'on peut ne proposer que chez nous parce qu'on n'a pas la main. On aimerait bien pouvoir les rendre accessibles partout, mais c'est pas de notre sort. Du coup, le minimum qu'on peut faire, c'est déjà de proposer la meilleure expérience en tant que créateur et en tant qu'auditeur sur Spotify. Après, pour l'utiliser sans que ce soit en effet gênant si c'est entendu sur Apple ou d'autres plateformes, on entend toujours des messages, que ce soit à la fin ou pendant le podcast, qui disent n'hésitez pas à mettre des notes sur Apple. On sait qu'on l'entend sur Spotify alors qu'on n'a peut-être pas les mêmes systèmes de notation. Ça peut être aussi des messages qu'on adresse en précisant aux gens que de toute façon, ils écoutent un peu partout. Vous avez peut-être aussi une idée de la répartition de votre audience. Est-ce qu'elle est plus sur Spotify ? Est-ce que c'est équitable ? Mais ça permet. Je pense qu'il y a une façon de s'adresser un peu à tout le monde en précisant que c'est des outils qui sont que sur Spotify, mais que c'est pour des gens qui écoutent d'ailleurs, qui écoutent depuis Apple par exemple, ils peuvent aussi mettre des notations ou vous donner leur retour autrement.
Deuxième question, ici. C'est une question pour Héloïse. Alors bonjour, Eden, j'ai réalisé deux podcasts. Le premier s'appelle Faisant tiers-lieu, le deuxième s'appelle Melting Popot. en écoute sur Spotify. Hein, si
mais on se connaît en fait.
On se connaît, oui. Je suis actuellement en formation chez Hero, Maria Schools, et Héloïse, la semaine dernière, m'a fait un cours sur Reaper. donc Héloïse, très heureux de te rencontrer en vrai. Une question pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, tu vis de ton activité de podcastrice ? Et est-ce que tu as changé de modèle économique entre-temps ? C'est-à-dire, est-ce que tu es passé par un soutien de tes auditeurs ? Voilà.
Mamie dans les orties, on ne pourrait pas en vivre. Donc non. Voilà. Mais après, à côté de ça, j'ai un studio. Je fais du podcast de marque. Et donc c'est voilà, donc je fais du podcast en marque blanche. Après c'est pas vrai, je suis un peu tranchée, mais si je faisais que Mamie dans les orties et que je faisais par exemple des ateliers dans les EHPAD, je pourrais en vivre quoi, tu vois. Je dirais j'ai une bonne carte de visite, je suis experte pour interviewer les vieux et voilà, ça m'arrive de parfois tu vois être payée. Non mais c'est vrai, tu vois, j'étais payée par le comité de tourisme du Jura pour interviewer les vieux pour la journée du matrimoine. Enfin voilà, parfois je fais des trucs comme ça. Mais Mamie dans les orties, en termes de rémunération d'audience, non, on ne pourrait jamais en vivre. Enfin, ça serait impossible. Voilà.
Merci.
Merci. J'avais une question par rapport à... Comment ça s'appelle ? Radar Podcaster. Quand est-ce que c'est ? Comment c'est les modalités pour justement la promotion 2024 ?
Alors du coup, là, on a lancé la promo le 5 octobre. Il y en aura une autre dans l'année. On n'a pas encore défini la date. Après, on fait de toute façon, les podcasts, on en écoute tous les jours de la semaine en tout cas. Donc on les repère déjà assez en amont. Si la question, c'est aussi si tu veux soumettre ton podcast, ça se passe via l'adresse là et n'hésitez pas. Et nous, après, ça peut être... Là, les podcasts qu'on a sélectionnés, c'est les podcasts qu'on a écoutés pendant plusieurs mois. Il y en a qu'on venait de découvrir, il y en a qu'on a découvert depuis longtemps, etc. Donc c'est quand même un accompagnement long terme. Donc on veut aussi laisser le temps aux podcasts qu'on a choisis de vraiment prendre de l'ampleur. Donc on essaie de les accompagner sur plusieurs mois avant de changer de promotion. Côté musique, il y en a 3 par an, mais ils ont moins d'artistes. L'idée, c'est que ce soit régulier, mais quand même pas trop resserré pour laisser le temps à chaque podcast et d'être découvert par tout le monde.
Et est-ce qu'il y a des critères pour... intégrer cette promotion ?
Pas plus que ce que j'ai dit, c'est-à-dire du contenu fort, intéressant, bien fait, régulier aussi. Et c'est vraiment c'est un choix éditorial, donc c'est choix éditorial et aussi en termes d'audience. Et on se dit, est-ce qu'on peut pousser ce podcast pour qu'il trouve une nouvelle audience ? Ça, c'est vraiment notre... L'idée, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur, quoi. Donc c'est ça.
Qui a 72 épisodes et on est dans la catégorie carrière parce que nos clients en fait c'est plutôt du B2B, donc des grands groupes mais des non rémunérés, donc on n'en vit pas non plus. En même temps, je me demandais si Spotify regarde les catégories, parce que le développement personnel, c'est peut-être plus, il y a peut-être plus d'audience, d'appétence. Donc on a regretté à un moment donné en se disant on est à 60 000 écoutes, donc c'est pas énorme, mais ça commence. Enfin, on a une petite audience fidèle. Est-ce qu'il faut changer de catégorie ? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder, en fait ?
En fait, moi, je dirais pas trop que c'est Spotify, mais plutôt que c'est votre audience, parce que du coup, on navigue dans les menus. Donc, si vous sentez que votre audience, elle va vraiment se retrouver dans carrière, c'est plus pertinent. Si vous sentez que c'est en développement perso, c'est plus là. Après. Ouais, je pense que c'est vraiment, c'est nous, on regarde, enfin, on écoute tout. Donc, non, il n'y a pas d'impact, c'est juste plutôt la curiosité de vos auditeurs, quoi. Si vous imaginez de vous balader sur un truc, est-ce que vous allez plutôt avoir envie de cliquer sur carrière que développement personnel ? Et ça dépend de votre base d'auditeurs et des gens que vous voulez toucher.
Et en général, si c'est des tags ou des catégories que vous précisez sur votre hébergeur, vous pouvez en ajouter plusieurs parfois, pour qu'ils puissent se retrouver à la fois dans les deux catégories, par exemple. Au moment, oui, dans la personnalisation du flux RSS, les paramètres, vous devez pouvoir compléter, en ajouter plusieurs. Choisir un ou en ajouter plusieurs, peut-être.
Ok, merci. Laura Virginie, est-ce qu'on prend une dernière question ? Je voulais choisir.
Mais après, on sera de toute façon un peu dans les barrages à la sortie s'il y a des questions urgentes.
Bonjour, Corinne. créatrice, entre autres, d'un podcast qui s'appelle Argent, parlons cash les filles, donc féministe et l'argent des femmes. Je me demandais si vous accordiez une attention particulière aux podcasts artisanaux, comme, comme le tien, totalement artisanaux, mais en plus, dont même la musique a été... La musique est une musique originale, c'est-à-dire on n'a pas été chercher une musique sur une banque, une banque musicale. C'est une musique totalement originale faite par un sound designer, pour nous spécialement. Enfin, vous êtes sensible à ce genre de détails au niveau de la création, de la créativité du podcast.
Je vais vous répondre aussi par la question de l'audience. C'est que je pense que ça fait une différence parce que ça vous donne une patte. C'est toujours plus riche et ça s'entend, je trouve, quand on a un beau son, comme quand on a une bonne prise de son. Ça nous arrive aussi parfois d'avoir un contenu super intéressant, mais avec des bruits de vent dans tous les sens et c'est compliqué pour nous parce qu'on sait que les gens vont lâcher. À l'inverse, si votre podcast est bien produit, que c'est très agréable à écouter, c'est sûr que ça va être plus agréable à écouter. Après, si le contenu ne suit pas en termes de récit, ben ça suffit pas. Mais moi, enfin, je pense que plus vous êtes bien dans tout, si votre musique elle est exceptionnelle, si la prise de son est très bonne, ça offre un confort d'écoute que effectivement nous on fait attention à ça parce qu'on sait que c'est ça aussi qui va convaincre les gens, c'est que les gens vous écouter en faisant je sais pas la vaisselle, en se baladant dans la rue et tout. Si vous faites un petit diamant qui est très agréable à écouter, c'est beaucoup plus agréable que quelque chose où il faut revenir en arrière parce qu'on a raté un mot ou des choses comme ça. Donc oui, la qualité du podcast, on y est sensible parce qu'on sait que les auditeurs et auditrices y sont sensibles aussi.
Vous n'avez pas de studio, vous n'avez pas en amont les créateurs du tout?
On n'a pas de studio, non. Non, bah les différentes façons dont on les accompagne, du coup, c'est via les outils, les choses qu'on met à disposition, les ressources pédagogiques, les programmes de mise en avant, de développement, mais c'est les seuls, enfin c'est les outils que nous on va avoir entre nos mains, en tout cas pour vous aider pendant la création. Voilà, je crois qu'on doit libérer la salle. Désolée à tous, mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci.